Donc là, je vais ouvrir les huîtres. Parce que comme c'est des huîtres que vous avez ramassées ce matin, donc on dit sauvages, c'est pas des huîtres commerciales. Et en fait, elles sont pas toujours faciles à ouvrir. Elles ressemblent pas à grand chose. Mais j'utilise ça, un gant en côte de maille, pour éviter les blessures qu'on a déjà eues au laboratoire. Alors normalement, on en a besoin d'une vingtaine. Donc là, je vérifie d'abord le nombre qu'il y en a à peu près. Comme c'est des sauvages, elles ont tendance à se coller entre elles. Donc on ne sait pas trop combien on en a. On en prend toujours en excès. Et du coup, ça a l'air à peu près bon. Vous avez fait un lot, Cécile, en plus pour bactériaux, tu sais ou pas?
Comment?
Est-ce qu'il y a un autre sac pour bactériaux ou pas?
Ouais, pour échanger chaque colis,
oui.
Il est au frigo.
D'accord. Donc là, je peux tout prendre. Je m'appelle Sylvain Parnaudot, je suis ingénieur au laboratoire depuis pas mal d'années maintenant. Et je travaille principalement en virologie, mais également en bactériologie. Voilà. Celle-ci est assez échappée. Non, j'ai pas chopé le numéro de chantier. Oui, c'est parti pour tout faire parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Vous en mangez, vous, les huîtres?
Oui. Alors, pas celle-ci. Pas celle-ci parce que je connais les résultats qu'on a depuis le suivi qu'on fait et c'est un endroit relativement fréquemment contaminé par des rejets, mais enfin, on était en réunion avec les gens de Saint-Nazaire, ils le savent très bien, c'est un point isolé, un endroit problématique chez eux. Ils savent qu'ils ont des débordements, d'ailleurs ils sont en train de faire énormément de travaux pour pouvoir enlever ces débordements qui peuvent arriver d'eau usée. Mais puis c'est vrai que les sauvages, comme ça, moi j'ai moins l'habitude. C'est le problème aussi avec ces huîtres sauvages. C'est qu'il y en a pas mal qui sont envasées, en fait. ...90% de nos virus se concentrent dans ce qu'on appelle l'estomac, en fait, hein, le tube digestif. Quand elles filtrent, elles vont avoir le virus qui va rentrer, ça va se fixer à cet endroit-là, sur les particules. Et donc, du coup, ça nous permet, d'une part, c'est là où se trouve la principale du virus, et en plus, tous les autres tissus qu'on peut trouver dans les huîtres, bah, en particulier le pied, par exemple, qui est un muscle un peu dur, en fait, ça peut nous empêcher nos manipulations qu'on va faire derrière. On appelle ça des inhibiteurs, en fait. Donc, ça peut inhiber toutes nos réactions qu'on a derrière. De temps en temps, il y en a des trop durs que... On n'arrive même pas à ouvrir. Là, on voit tout le manteau encore. Donc, c'est ça qui va se contracter pour faire rentrer l'eau dedans. On a des branchies ici qui sont comme des branchies de poisson. Donc, qui vont filtrer les particules, qui vont tout orienter vers la bouche qu'on peut voir dans un coin qui est juste entre les palpes labiaux ici. Et le tissu digestif, on le voit, en fait, il prend la coloration de ce qu'elle mange. Donc, comme à Saint-Nazaire, on a pas mal de vases, mais le tissu digestif, ils sont très marrons. Voire très noir. Donc en fait, la dissection est relativement évidente parce qu'on voit ce qu'on doit récupérer. Puis en fait, on enlève tout le reste. Et là, elles ne sont pas en période de laitance, les huîtres. Pourtant, elles devraient normalement. Mais comme c'est des sauvages, elles ne sont pas toujours tout en même temps. Et du coup, elles ne sont pas trop grasses, comme on appelle ça. Ce qui nous embête encore plus dans notre dissection. On comprend aussi ce que Cécile est en train de faire là, c'est qu'elle tare une boîte à côté pour la totalité des individus qu'on a, donc on les a comptés. On va les peser en entier, puis après on va compter combien on a de grammes de tissu digestif après. Et en fait, on va pouvoir avoir un ratio du coup par rapport à la totalité du coquillage.
Je suis Cécile Lemanec et je suis technicienne au laboratoire depuis une douzaine d'années à Nantes. Voilà, je travaille aussi sur... le norovirus qui se retrouve parfois dans les huîtres. Parce que là, je sais. sais que le tissu digestif, il est environ par là. Donc je coupe déjà l'huître en deux. Et donc la partie noire, c'est tout le tissu digestif. Donc j'essaye d'enlever un maximum de chair, de branchies, de manteaux. Donc là, il y a à peu près une trentaine d'huîtres. À la fin, je vais récupérer tous les tissus digestifs que je vais couper en tout petits morceaux. Et là, je ferai des aliquots de 2 grammes. Et après, ça part en analyse, en biologie moléculaire. Mais ça, Sylvain va vous montrer cette partie-là.
Donc du coup, on change de pièce, toujours dans le même laboratoire. On est parti dans la pièce d'extraction maintenant. Donc en fait, une fois qu'on avait reçu nos échantillons, on a fait la dissection, on a le tissu digestif. Et donc ces tubes de tissu digestif, sur les 38 qu'on a pris, on va tout mélanger, tous les tissus digestifs, bien les découper pour les alicoter. Donc on est obligé d'avoir ce qu'on appelle la représentativité de notre échantillon. Donc théoriquement, il y a du virus dedans. Donc on va partir du principe qu'il y avait du virus au départ. Et ce qu'on va faire, la première étape, ça va être de décrocher ce virus de nos tissus. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec une enzyme qu'on appelle la protéine ASCAT. Mais en fait, on va juste mettre l'enzyme à 37 degrés dans une étuve. On va le faire tourner pour que l'enzyme atteigne bien tous les tissus. Et en fait, on va la faire marcher qu'à moitié l'enzyme pour venir à ce qu'elle décroche les virus, mais qu'elle ne casse pas la paroi du virus. Ensuite, on va le changer d'étuve, on va passer à 60 degrés. Là, ça va avoir l'effet de liquéfier encore plus les tissus d'huître et aussi de détruire l'enzyme. Parce qu'en fait, l'enzyme, on ne la veut plus après. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer notre virus. Et donc, une fois qu'on a récupéré ce surnageant-là, on va passer dans la pièce d'après où, en fait, ce que je veux, moi, ce n'est pas le virus qui m'intéresse en entier, c'est uniquement son acide nucléique, donc le fameux ADN. Et là, pour nous, ce n'est pas des virus à ADN, c'est des virus à ARN. Donc voilà, c'est comme le SARS-CoV par exemple, on en a beaucoup entendu parler à ce moment-là. C'est pas le même type de virus, hein, mais parce que c'est plus des virus entériques, mais c'est les mêmes structures de virus à peu près.
Pour savoir s'il y a des virus, on utilise donc cette méthode de PCR. C'est une méthode qui va détecter une petite portion du matériel génétique du virus dans les échantillons. Comme c'est une petite portion, ça permet d'être très sensible, parce que même si le matériel a été un peu abîmé, le génome un peu cassé, un tout petit morceau va rester détectable. Et par contre, effectivement, l'à côté, c'est qu'on ne sait pas à quel point le virus a été dégradé quand on le détecte. C'est une méthode de PCR qui est très sensible, et qui est aussi spécifique de certains norovirus, ou de certains entérovirus, enfin, on peut choisir aussi le degré de spécificité. Peut-être que l'huître est un peu plus sensible à la contamination parce que on sait maintenant qu'il y a des molécules qui sont similaires entre l'huître et l'humain, donc qui permettent pas au virus d'infecter l'huître, mais qui lui permettent de s'accrocher de manière spécifique. Donc en ce qui concerne le norovirus, les huîtres sont probablement un peu plus à risque. Cependant, sur une même zone, s'il y en a un qui est contaminé, les autres ont quand même de forts risques de l'être.
En fait, nous, c'est notre angoisse, on porte des gants partout, on a des blouses. C'est pas une peur de se contaminer, nous, mais c'est plutôt une peur de contaminer l'échantillon. Parce qu'on en cherche des très faibles traces qu'il y a au départ, mais la PCR, ça va nous l'amplifier des dizaines et des dizaines de dizaines de fois. Donc c'est pour ça qu'on a un système de marche en avant aussi au laboratoire, on revient pas en arrière par rapport à la manipulation, parce qu'il faudrait pas contaminer notre échantillon. On a assez peu de risques sur nous, ce qu'on fait. Si le risque, ça peut être plus les eaux de station d'épuration, où là, il peut y avoir de tout sans qu'on sache qu'il y a dedans. Donc là, on va attendre. On attend que l'acide nucléique éventuellement présent, donc on va partir du principe qu'il y en a, et va se fixer sur notre silice magnétique. Donc la silice magnétique, qu'est-ce que c'est ? La silice, c'est comme du sable. Donc là, forcément, il est noir, parce qu'en fait, il est fixé à des particules d'aimant. Et ce qu'on va pouvoir utiliser là dans notre manipulation, c'est que cette silice-là, avec le thiocyanate de guanidium, ça fait une réaction. L'acide nucléique, et en particulier l'ARN, va avoir une très forte affinité pour cette silice. Donc il va aller se coller sur la silice. Donc ça va nous permettre de le récupérer. Et en fait, ce qu'on va faire, nous, on va nettoyer cette silice au maximum. L'ARN sera toujours très fortement fixé. Et une fois qu'on aura bien tout nettoyé, on va pouvoir le décrocher de la silice en mettant de la température. En fait, il suffit d'augmenter un peu la température et de l'agiter en même temps, et l'ARN va se décrocher. Et donc, on aura nettoyé tous nos ARN de virus qu'on peut retrouver dedans. Et après, cet ARN-là, on va essayer de le détecter. Parce que tout ça, c'était pour savoir au départ, est-ce qu'il y avait du virus dans les échantillons. Donc là, comme j'ai dit, c'est des échantillons qu'on sait qui sont assez fréquemment contaminés. Et donc là, on va plutôt faire des suivis, parce que maintenant, on a des méthodes qui sont quantitatives. Donc on va savoir s'il y avait beaucoup de virus, pas de virus. Donc pouvoir comparer selon le site, selon les marées, selon... Là, on va beaucoup jouer sur la pluviométrie, enfin, mettre ça en relation avec la pluviométrie. Ça peut paraître assez simple. On se doute que quand il pleut, il y a plus de virus qui arrivent. Mais il faut quand même le prouver. Et à quelle quantité ça? Parce qu'on a quand même un effet dilution aussi. Donc voilà ce qu'on va faire avec cet ARN-là. Donc voilà, là on voit notre silice qui a été fixé là. Parce que les aimants, ils sont de chaque côté. Notre ARN est toujours fixé à la silice. On se retrouve là. Donc là, moi, je vais faire mes deux derniers tubes. La plupart des virus marins qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle les bactériophages. C'est des virus qui attaquent les bactéries qu'on peut retrouver dans la mer, en fait. Ça, c'est une grosse population de virus. Et puis après, il y a d'autres types de virus humains qu'on peut retrouver. Il y a des virus qui s'attaquent aux huîtres aussi. Mais ceux-là, on les détecte assez peu parce qu'en fait, ils ont tendance à tuer la population d'huîtres. Donc en fait, on ne les retrouve plus. C'est ce que font nos collègues de la Tremblade, par exemple. Ils travaillent sur un virus qui s'appelle l'herpès virus, ou SHV1, enfin un variant d'un herpès virus, qui a provoqué des très grosses mortalités d'huîtres il y a... C'était en 2008, donc voilà, ça a tué une grande quantité du cheptel. Par contre, c'était des petites huîtres, donc on ne l'a pas trop vu sur le côté huître commercial, mais ça s'est répercuté les 3-4 ans après, parce qu'il faut 3 ans pour faire des huîtres commerciales. Donc voilà, on peut retrouver ces virus-là aussi. On retrouve du virus de poisson, on retrouve énormément de virus d'insectes et virus de plantes aussi, parce que forcément, bah, tout ça, ça se rejette dans l'environnement marin aussi. Et puis, après, c'est aussi... On a un souci, nous, dans l'environnement marin, c'est qu'en fait, ces virus-là, on ne peut pas les comparer à d'autres choses parce que nos bases de données ne sont pas suffisamment complètes, puisqu'on est encore dans l'inconnu. Donc, en fait, ce qu'on retrouve comme virus, c'est les virus qu'on connaît. Donc, ça va être les virus de plantes, les virus d'insectes, les virus de moustiques, par exemple. Ça, c'est tellement étudié partout dans le monde, on en retrouve un peu partout. Le virus, pour entrer dans nos tissus à nous, il a besoin d'un système clé-serrure, il a besoin d'une porte d'entrée. Et en fait, ces ligands qu'on trouve sur nos cellules à nous, on les retrouve aussi dans les cellules d'huîtres. Pourquoi ? Ça, on ne sait pas vraiment. Mais c'est des ligands très très proches. Donc ça veut dire que ce virus-là, qu'on pensait être qu'une particule inerte pour un virus, finalement, il va rentrer dans les cellules d'huîtres. C'est ce qui va expliquer en quoi c'est si difficile d'enlever ces virus des huîtres. Les bactéries, si on passe, par exemple, Escherichia coli, sur lequel on travaille nous aussi, ils rentrent dans les huîtres, on met dans un bassin de purification en 48 heures, il n'y a plus aucun Escherichia coli. La bactérie, elle est passée à travers. Là, ce qu'on a remarqué, c'est que nous, on est plutôt sur les 20-28 jours de purification pour pouvoir enlever une quantité de virus, et on ne va pas être forcément à zéro à la fin. On ne l'explique pas encore. On a compris ça il n'y a pas très longtemps, et on a compris, ça nous a expliqué pourquoi les huîtres se contaminaient aussi vite avec les virus et pourquoi on avait autant de mal à les enlever à la fin. Mais par contre, ça ne fait strictement rien aux huîtres.
Pour l'instant, ces résultats, on les bancarise. Ils vont servir ensuite à être confrontés aux autres données qu'on collecte dans le cadre du projet des données environnementales pour construire ce modèle de prédiction, essayer de relier la présence ou non de virus à des événements qui se sont passés juste avant ou un peu avant, de pluie, de sécheresse éventuellement, de débordement de stations. Enfin voilà, on a beaucoup de sources de données différentes. Donc ça, c'est pour la partie vraiment modélisation. Nous, on va aussi utiliser les données, bien sûr, pour produire des articles scientifiques qui vont tenter de répondre à différentes questions sur quelle est la diversité de ces virus. Une des questions qui m'intéresse particulièrement dans le cadre de ce projet, c'est d'essayer de savoir, entre les eaux usées brutes, traitées, et ce qu'on va trouver dans les coquillages, à quel point la diversité est altérée, quels virus vont être un peu sélectionnés dans l'environnement. Et peut-être que ça débouchera plus tard sur des projets pour essayer de comprendre pourquoi lui et pas un autre aussi, parmi la diversité de ces virus. Dans le projet, on étudie un bassin qui est assez large, qui correspond à l'estuaire de la Loire, donc c'est effectivement beaucoup de personnes. Après, en ce qui concerne la santé elle-même des gens, la zone où on va chercher les coquillages, c'est pas une zone de production, éventuellement c'est une zone de pêche à pied. Donc quand il y a de la contamination bactérienne, c'est affiché, donc les gens sont dissuadés d'aller ramasser des coquillages là. Donc à la fois on a une emprise géographique en termes de source de la contamination qui est assez large, et en même temps en termes de population exposée, c'est assez faible, puisque il n'y a pas vraiment de risque à la baignade, et la consommation reste probablement très anecdotique sur ce site. Les gens savent quand même qu'on est dans l'estuaire de la Loire, donc même s'il y a, paraît-il, des consommateurs de temps en temps, on n'entend pas parler d'épidémie. C'est aussi sûrement des gens qui ont l'habitude et qui devaient avoir un microbiote intestinal particulièrement résistant. Donc, j'aimerais bien les rencontrer, mais peut-être un jour on croisera des pêcheurs à pied. Mais bon, voilà, sur un an, on a ramassé des coquillages presque maintenant. De manière hebdomadaire, on n'en a pas croisé, donc ça ne doit pas être si fréquent que ça. Les problématiques de contamination des bassins versants côtiers par les virus, en fait, elles touchent toute la façade maritime de France, puisqu'on a les mêmes problèmes un peu partout. C'est une intensification de l'urbanisation, des infrastructures de traitement des eaux et surtout de collecte, les réseaux qui sont un peu vieillissantes. Et c'est des travaux qui sont très chers à entreprendre par les communautés de communes. On fait comme on peut, mais voilà, il y a effectivement des rejets directs, des fuites, des trop-pleins, etc., qui vont dans le milieu. Et les conchyliculteurs de toutes les zones, en fait, peuvent être soumis à ce type de risque. Après, d'expérience, on voit bien qu'il y a des zones dans lesquelles ça se produit pas, ou en tout cas, il y a soit les courants envoient la contamination large, soit les infrastructures sont suffisantes. Et donc dans ce cas-là, il y a peu de contamination, voire jamais. Il y a des zones qui sont plus problématiques. Et puis après, il y a aussi des variations qu'on ne comprend pas encore très bien. Il y a des années avec beaucoup, beaucoup de cas de contamination de l'eau d'huître, et puis aussi un nombre non négligeable de contamination de personnes après à la consommation. Ça s'est produit par exemple en l'hiver 2019-2020 ou l'hiver 2023-2024. Il y a même des articles dans les journaux, on en a un peu parlé. Et il y a des hivers où c'est beaucoup plus réduit. Donc il y a plusieurs facteurs en jeu. Il y a probablement la pluviométrie. Ça peut être aussi la circulation des norovirus qui peut être différente. En 2023, l'épidémie avait commencé assez tôt. Il y avait des gastroentérites assez tôt dans la saison. Cette année, c'était plutôt tardif, donc ça peut aussi expliquer des différences de contamination. C'est aussi des choses qu'on espère voir dans le projet. On couvre que 2 années d'échantillonnage dans le cadre de ce projet-là, mais l'idée, c'est quand même d'avoir un suivi dans la durée, parce qu'en fait, ces tendances-là, elles font sens, mais au bout de plusieurs années. Donc quand on monte un projet, il est toujours un peu borné dans le temps, mais on essaye de dépasser ces bornes-là pour pouvoir accumuler de la donnée sur suffisamment d'années pour voir des différences.
C'était la virologie des coquillages, second épisode. Avec Sylvain Parnaudeau et Marion Desdouit, chercheurs et chercheuses au laboratoire santé, environnement et microbiologie de l'IFREMER Nantes. Réalisation Aurélien Frances. Une production de Silence Podcast, avec le soutien de la ville de Nantes.